Outita. Outita.
Attitude. Outitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac. Bonjour chers auditeurs de Radio Languedoc. Aujourd'hui, on aura une petite nouveauté. La mise en onde va être réalisée par Marc. Marc, qui est notre ami présent à la radio depuis longtemps. Et c'est Marc qui va se coller à Occitanitude d'aujourd'hui. Notre invité, c'est Baptiste Payou. Bonjour Baptiste Payou.
Bonjour Jean.
Voilà, Baptiste Payou, donc, ben, je dirais que c'est le représentant naturel, j'ai presque envie de dire, de la communauté gitane, au niveau national, européen, local. Il est partout ce monsieur, on va le voir tout au long de l'émission. Je ne donne pas ses titres, mais je les donnerai au fur et à mesure. Donc Baptiste Payou, ben, c'est la grande aventure de ce jour, et c'est l'Occitanitude donc, des gitans, on va dire. On peut le dire comme ça ?
Tout à fait.
C'est l'Occitanitude des Gitans, pourquoi pas ?
Pourquoi pas le dire comme ça ? Oui, tout à fait, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais bon, moi je suis un petit peu de partout, parce qu'on me le demande tout simplement, hein, voilà. Et si je suis de partout, c'est parce qu'il y a beaucoup de Gitans qui veulent faire beaucoup de choses, mais qui n'ont pas envie de le faire. Donc, ils me laissent le soin en moi de le faire, tout simplement.
Voilà, mais c'est la façon d'être représentant, représenté, et d'être l'ambassadeur, j'ai envie de dire ambassadeur des Gitans.
J'adore ce mot.
Ça vous va ?
Ça va.
Bon, alors, on y va. C'est Baptiste Payou, ambassadeur des Gitans. Alors, Baptiste Payou, c'est avant tout à l'Est, au départ.
Tout à fait. À l'Est, j'habite à l'Est depuis des années. J'ai grandi à l'Est, je vis à l'Est, je travaille à l'Est. Mais en principe, on dit que nul n'est prophète à son pays. Alors, c'est pour ça que je parcours la France et l'Europe pour apporter la parole à la communauté gitane qu'on en a vraiment besoin.
Alors, vous êtes un gitan... non pas nomade, mais sédentaire.
Oui, tout à fait. Nous sommes des gitans sédentaires depuis des années par rapport au travail qui fait qu'on a été obligé de s'installer pour la scolarisation des enfants aussi parce que, bon, nos parents étaient un peu plus en avance que certains et ils pensaient que le savoir est une arme. Et donc, du coup, ils nous ont scolarisés.
Voilà. Alors, cette façon d'être des gitans d'aujourd'hui, sédentaire, ça fait un pourcentage de combien à peu près dans le monde du gitan français, européen, je ne sais pas comment on peut dire.
Moi, je pense qu'en ce moment, malheureusement, par rapport au problème que l'on rencontre sur les aires de stationnement, il y aurait pratiquement le trois quarts de la population qui serait sédentarisée.
Donc, il reste un quart qui...
Un quart de vrais gitans, pour moi, ce sont les manouches, qui sont encore sur les routes, pour moi, ce sont les vrais fils du vent.
On va en reparler, hein. On va en reparler tout au long de l'émission, bien entendu. Donc, voilà, c'est dit. Les voyages, donc, forment la jeunesse hein, au niveau des gitans et des autres.
Hein. Et des autres aussi.
Et des autres aussi. Alors voilà, donc, votre nature, qui était auparavant une nature de voyageur, elle vient de vos parents, qui étaient à la fois, on va dire, brocanteurs, maquignons...
Marchands ambulants.
Alors, racontez-nous un peu comment ça se passait quand vous étiez enfant avec votre père, votre grand-père, votre famille, quoi.
Eh bien, on partait sur les routes, hein, on allait chiner, on appelait ça chiner, faire le porte-à-porte. Ils étaient brocanteurs, ils étaient maquignons, ils étaient leurs de chevaux. Les femmes vendaient des aiguilles, ils vendaient de la dentelle, ils vendaient du fil. Il y avait des échanges, il y avait beaucoup de troc, c'est-à-dire que des fois, on donnait nos couvertures, ils nous donnaient un lapin. C'était magnifique. Et bon, maintenant, par contre, ça devient très difficile, avec toutes les grandes surfaces qui s'est ouvertes, tout Internet, les commandes sur distance et tout, c'est terminé.
C'est un temps qui a duré jusqu'à quelle époque, à peu près ?
Moi, je pense jusqu'à les années 80.
Oui, et depuis 80, c'est...
C'est terminé. Les gens, à l'époque, ils ne bougeaient pas beaucoup dans les vieux villages, dans les Cévennes, du côté de Mans, de Florac, de le Cantal, tout ça, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sortaient pour aller faire les courses. Alors donc, nous, on y allait, on vendait, on achetait, on échangeait. Et ça n'existe plus.
Alors, vous êtes maintenant l'ambassadeur. À l'époque, vous étiez les colporteurs.
Tout à fait. Nous étions des colporteurs, mais tout à fait, c'est le terme exact.
C'est le terme.
C'est le terme exact qui convient tout à fait au type de métier qu'on exerçait, parce que nous, on était là pour... En gros, on gagnait notre vie, bien sûr, mais on rendait des services aux gens aussi. Ça les évitait de sortir de chez eux. On leur portait des couvertures, on leur portait des draps, on leur portait des tricots, on leur portait à manger, je sais pas. On échangeait, puis il y avait un échange.
Et comment se passait donc ce rapport aux gens, ce rapport aux autres. Parce que le gitan est mal vu, de façon générale. Ou pas.
Oui, mais le gitan est mal vu quand il n'est pas connu. C'est-à-dire, la première fois quand il passait dans un village, tout le monde le regardait au travers. Mais quand il a vu passer, qu'ils ont vu comment il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait, comment il vivait. Et pour moi, le racisme, c'est une méconnaissance de l'autre. Tu es raciste parce que tu ne me connais pas. Prends le temps de me parler, échange, et tu verras que je suis comme toi. Et c'est ça qui s'est passé durant des années, c'est que ma famille était très bien reçue, quoi, contrairement à ce que les gens pensent, dans des contrées très reculées, que les gens sont... Ils ont peur, ils voient personne. Et bien, contrairement à ce qu'on pense, les gens les recevaient très bien. Moi, j'ai vu des gens qui les attendaient à bras ouverts. Ils les faisaient rentrer chez eux, ils les faisaient boire le café, ils les faisaient manger. Il y avait un échange, c'était de l'amitié. C'était contrairement à ce... Et c'était très bien. Et maintenant, par contre, c'est le sens contraire. Les gens, au plus ça va, j'ai l'impression, au plus qu'on nous repousse. Parce qu'il y a encore tous ces préjugés, tous ces a priori par rapport à la communauté gitane.
Il y a des préjugés.
Mais bien sûr qu'il y a, énorme. Il y a encore plus maintenant qu'avant. Parce qu'avant, le français, il était droit dans ses bottes. S'il voulait, il voulait. S'il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et chez nous, c'était pareil. Et maintenant, il y a plein de gens qui disent « Oui, le gitan, il est là, il est faux. » Non, nada. Et puis, quand on me traite le gitan, je suis fier qu'on me traite le gitan.
Alors, ces gitans, qui ont une grande fierté, comme vous le disiez, d'où ils viennent? Parce que, bon... Il y a toujours des origines improbables. Vous êtes de Catalogne, d'Espagne.
À la base, nous sommes d'Espagne.
Espagne, Perpignan.
Perpignan, Montpellier, puis on est
Espagne qui grignote près Perpignan dans votre histoire. Mais Baptiste Payou, d'où ils viennent ces gitans?
À la base, nous sommes tous d'Espagne. Parce que, enfin, Perpignan était rattaché à l'Espagne. Alors, du coup, bon, nous sommes redescendus sur Montpellier, nous sommes redescendus. Un petit peu de la gare, un petit peu partout. Mais à la base, d'après ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, on arriverait du nord-est du Rajasthan. On serait parti du nord-est du Rajasthan, on aurait traversé la Grèce antique, on aurait tout traversé. C'est pour ça qu'on nous appelait à l'époque Eryptanos, égyptien. Et au fil du temps, ça s'appelait Eryptanos, Gitanos et Gitan. Par contre, nous n'avons jamais traversé l'Égypte. On a traversé la Grèce, qu'ils appelaient la Petite Égypte.
Alors, donc, vos racines, petite Égypte, alors que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas.
Jamais. On arrive de l'Inde.
Bon.
C'est pour ça qu'on est un petit peu coloré.
Vous êtes zen.
Un petit peu coloré, surtout.
Bon, écoutez, je crois qu'on n'a pas fait le tour avec Baptiste Payou, mais on a commencé à voir un peu où on allait dans cette émission, puisqu'on va dans une émission qui est le temps des gitans. Je crois que ça rappellera des choses aux amis du cinéma. Et ceci étant dit, donc, ben, on va faire notre première pause musicale avec notre intervenant du jour, Marc. Pause réussie, je dirais, mais vous allez nous la désannoncer vous-même, parce que, bon, je connais peu ces musiques-là, qui sont d'une très très grande qualité.
Djelem, Djelem, c'est un coup d'œil à nos frères roms. Moi, je suis gitan catalan, je suis sédentaire, et nos frères roms subissent en ce moment des atrocités. Et voilà, c'est un petit coup d'œil. Djelem, Djelem, ça veut dire, faut partir, c'est sur la route.
Alors, les roms, ce sont ceux qui baladent, quoi.
Voilà, tout ce qu'on balade.
Ils se font balader.
Tous ceux qui se font balader, tous ceux qui sont rejetés.
Alors, dites-moi un peu, parlez-moi de ce rejet.
Ce rejet, bon, le rejet du peuple rom, ça a toujours été comme ça. Et nous sommes rejetés aussi, les gitans catalans, les gitans espagnols, tous les gens du voyage, nous sommes rejetés. Mais nous ne sommes pas discriminés au même point que il subit de plein fouet ce racisme, le rom.
Pourtant, il y a des lois qui autorisent les gitans à camper, j'allais dire. C'est un peu gonflé comme expression.
Oui, camper, non, je ne me parlais pas ce terme.
Non, c'est un humour.
À stationner, je dirais. Il nous tolère de stationner un jour ou deux, alors qu'on passe pour les hors-la-loi parce qu'on stationne n'importe où, n'importe comment. Il ne faut pas oublier qu'on nous appelle les fils du vent. On n'emprisonne pas le vent. Et ces messieurs de la République qui nous réprimandent si souvent, ce sont eux les premiers en la loi, parce que c'est pas nous qui fait les lois, ce sont les hommes qui font les lois, d'accord. Et ils ont décidé qu'à partir de 5 000 habitants, une aire de stationnement sera obligatoire pour les gens du voyage. Il n'y a que 30% des mairies qui sont en application de la loi Besson. Et c'est nous qu'on traite dans la loi, parce qu'on va stationner sur un terrain qui n'appartient à personne, ou à quelqu'un qui n'est pas là.
Mais la loi Besson, est-ce qu'elle est imposée aux mairies, ou est-ce que les mairies sont volontaires? Comment ça se passe?
Absolument pas. C'est imposé par M. Besson. À partir de 5 000 habitants, une aire est obligatoire. C'est pas nous qu'on l'a dit. C'est M. Besson qui a créé cette loi. Elle n'est pas appliquée. Si je vous dis n'importe quoi, ils nous prennent souvent pour des chevaux de Camargue. On ne mange pas les roseaux, on ne mange pas les roubines. Ils nous mettent sur des terrains, quand ils nous tolèrent, à des dizaines de kilomètres des villes. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. C'est intolérable. Alors que si moi, avec tout le respect que je dois à Mme Brigitte Bardot, si moi je prends un chien, que je l'attache au milieu d'un chien, un champ en plein soleil, sans eau, tout le monde va me tomber dessus, on va me mettre en prison. Mais par contre, un gitan reste en plein soleil, sans eau, sans électricité, sans commodité, ça ne gêne personne. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le rejet de la société envers la communauté gitane qui se passe, c'est inadmissible.
Alors comment vous pouvez faire avancer les choses, puisque vous êtes l'ambassadeur, vous avez la parole, et vous avez la parole dans des lieux importants, entre guillemets.
Mais il s'est passé un truc historique, c'est-à-dire qu'à l'époque, chacun travaillait pour sa communauté. Nos frères roms travaillaient pour eux, nos frères manouches travaillaient pour eux, les gitans espagnols travaillaient pour eux, les gitans catalans étaient pour eux. Alors, il s'est passé un truc formidable, c'est M. Alain Domas, pour ne pas le citer, qui avait créé ça. Il y a eu un jour une réunion, et on était dans une réunion, et on a dit, mais pourquoi on ne se regrouperait pas? Et c'est historique, sur la carte que je vous ai parlé. tout à l'heure, c'est l'UFAT, c'est l'Union française des associations tziganes. C'est-à-dire que les Sinti, les Yéni, les Manouches, les Gitans, les Espagnols, on travaillait tous ensemble. C'est-à-dire quand moi je suis à Paris, à la Grande Arche, à la Défense, et que je défends un projet ou une loi ou un terrain familial alors que je suis sédentaire, les gens ils ont confiance parce que je veux me battre pour eux. Quand moi je ne veux pas y être, que c'est un Rome, un Sinti, un Yéniche ou un Manouche qui est, j'ai confiance au Manouche parce qu'il va défendre ma problématique. On n'a pas tous la même problématique. Mais je sais que quand il va parler à mon nom, j'ai confiance. Et ça, les gens nous écoutent parce qu'en même temps, on dit que l'union fait la force. Et alors, on l'a compris.
Baptiste Bayou, j'allais dire. Bayou. Mmh. Bayou, c'est les références d'un député disparu de l'Hérault. Mais bon, c'était aussi quelqu'un d'intéressant. Alors, Baptiste Bayou, comment on devient l'ambassadeur des Gitans ?
Eh bien, on dira que je suis le plus casse-pied du groupe.
Vous êtes le plus ?
Le plus casse-pied. Pour être poli,
Donc pour être ambassadeur, il faut être casse-pied.
Voilà, casse-pied. J'ai ma famille et mes amis, ils m'ont dit, bon, mais écoute, toi que tu nous entends de crier derrière les gadjos, quand je dis gadjos, c'est pas péjoratif, ça veut dire tout simplement non-gitan. D'accord. Et j'étais toujours là, en train de crier, et c'est pas normal, et c'est pas logique, et c'est pas ci, et c'est pas mi, et c'est pas là. Et ça fait un petit peu le tour de la région, puis un peu en France aussi, et du coup, on a dit, bon, mais écoute, tous nos présidents au niveau local se sont groupés, ils ont voté, ils m'ont dit, voilà, tu seras le représentant officiel. Pour venir, donc, pour aller à Paris, pour aller à Bruxelles avec mon ami Dominique Garel, pour aller un peu partout, pour prêcher la bonne parole. Et en fait, on est écouté parce que dernièrement, nous étions encore au ministère de l'Intérieur, avec Baba, avec Milo, avec des gens qui travaillent depuis des années bien avant moi sur la problématique que rencontrent les gens du voyage. C'est quand même important, c'est ce que je me plais à dire, je disais ça à mon ami. Un ami, puis il y avait M. Régis Kerol, à l'époque, qui était le juge, je dis voilà, avant, tu vois, Régis, la police, ils m'ont couru derrière, maintenant ils m'ouvrent les portes.
C'est amusant. C'est une sorte de revanche pour moi.
Mais bien sûr, mais tout à fait. Tout à fait. C'est, voilà, mais ça reste gentil, quand je voulais dire, ça reste gentil. Mais on est écouté parce qu'on revendique des choses qui tiennent à la route. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le monde, on réclame notre dû. Quand on dit qu'il faut une place pour les gens du voyage, c'est pas nous qu'on a décidé ça. Mais faites votre place. Si vous voulez pas qu'on se stationne n'importe où, donnez-nous un endroit où on puisse se stationner. Tout simplement. On ne demande pas la lune. Si vous n'êtes pas, vous, en règle avec ce que vous imposez, comment vous voulez que nous, on respecte ? On ne peut pas. Et puis, il faut être tolérant, les gens. Parce que des fois, dans nos convois, c'est vrai qu'il y a des casse-pieds, mais dans nos convois, il y a des personnes âgées, des fois. Ils ont besoin de repos, d'un peu d'eau, d'un peu d'électricité. On ne demande pas la lune. Respecter les gens, parce qu'on nous considère comme des étrangers. Moi, je me considère comme un étranger de l'intérieur.
Et les Gitans, comment ils se considèrent par rapport à la République française ? Quel est le rapport à la République, hein, d'une façon générale ?
Mais eux, ça sent à français. Moi, quand je vote pour mon président de la République. Mon drapeau, il est bleu, blanc, rouge. Quand on me parle d'écologie, je rigole. Le premier écologiste, c'est nous, c'est les Gitans. Avant, on s'arrêtait à côté d'une rivière, comme les parents de Lucien, ses grands-parents, à côté d'une rivière, un ruisseau, ils coupaient le roseau, ils le faisaient sécher, ils faisaient des paniers, ils braconnaient un poisson. Ce sont des écologistes, ils faisaient attention à la rivière, parce que ça les faisait manger. Quand on me parle d'Europe, c'était les premiers à les chiner en Angleterre, en Italie, en Espagne. Les frontières, on les traversait. Alors, l'écologie, l'Europe, on connaît tout ça. On connaît tout ça. Et on me traite d'étranger. Je ne suis pas un étranger, moi. Je suis un gitan depuis 1850 que ma famille est dans la langue de Roussillon. Je me fais montrer du doigt par des gens qui viennent d'arriver il y a 50 ans. C'est rare quand même. Moi, je m'appelle Baptiste, c'est français comme mon nom, Baptiste, non ?
Baptiste, c'est français.
Ah, c'est français, je crois, non ?
Et alors, justement, qu'est-ce que c'est qui vous différencie au-delà ? Est-ce que c'est la couleur de la peau un petit peu ou pas ?
Non, moi, je dirais tout simplement que c'est notre façon de vivre.
Ça gêne ?
Ça gêne parce qu'on est différent. Et tout ce qui est différent dérange. Ça gêne parce qu'on rit trop fort. Ça gêne parce qu'on se contente de peu. Ça gêne parce qu'on ne se le projette pas dans l'avenir. Ça gêne énormément. Ils ne comprennent pas qu'on puisse se contenter d'un plat de pâtes du moment qu'on a nos enfants et nos grands-parents à côté. On a une autre philosophie de vie que les gens ne comprennent pas. Pour eux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu fasses tout ça pour tes enfants. Ce n'est pas normal que tu fasses tout ça pour tes grands-parents. Mais les grands-parents, c'est ça qu'on a le plus sacré. Ils nous donnent toute l'expérience qu'ils ont, de leur acquis.
Vous êtes dans le respect et la transmission des aînés.
Mais obligatoirement, on est obligé. Vous vous rendez compte que ça veut dire les aînés ? Ils m'apportent le savoir, le respect. Quand ça ne va pas, moi, quand je préside une réunion, que je suis à Paris, que je suis à Bruxelles, que je suis à Lille, que je suis à Strasbourg, au Parlement, ou n'importe où, tout ce que je le dis parce que c'est les vieux qui m'ont dit de le dire. Je ne suis que président sur le papier. On a encore le respect de nos anciens et de nos patriarches. Si moi je suis là, c'est grâce à eux.
Alors, justement, j'ai une question. Par rapport à la société actuelle, c'est le gros décalage, là, non, peut-être ?
Complètement.
Alors, comment vous voyez ça ? Comment on peut rectifier le tir, si on peut dire ?
On ne rectifie rien du tout. Moi, j'avance. Je vis ma vie. Je respecte mon prochain, c'est tout. Et puis, si ça ne plaît pas comment je vis, ben, ferme les yeux. Je ne vais pas me changer pour un autre. Moi, je pense que nos anciens ont trop souvent couru le dos, justement, pour réussir. Moi, je me rappelle d'une époque où on nous interdisait de parler gitan pour pouvoir s'intégrer. Mais pour parler d'intégration, on venait de l'extérieur. Moi, je suis français. Je n'ai pas besoin de m'intégrer. Je peux faire de l'intégration avec les gens qui viennent de l'extérieur, pas avec moi.
Alors, est-ce qu'il y a une langue gitane ou est-ce que vous parliez catalan ou qu'est-ce que vous parliez comme langue quand vous étiez enfant ?
On parlait le calo.
C'est quoi ?
Le calo, c'est le gitan.
Alors, c'est quoi ?
Le calo, c'est... C'est une gitane, on parle d'une gitane, un dialecte qu'on ne peut pas faire. Parce que ça ne se pas, non ? C'est ça, non ? Parlez entre vous autres. C'est quand tu veux dire quelque chose que tu ne veux pas que tu comprennes, que vous comprenez, pardon, excusez-moi, je vous ai tutoyé. Moi, tu parles avec Lucien, moi, tu parles une cause que tout le monde ne se fasse. Parce que c'est une gitane, ça se bouge.
Voilà. C'est un mélange de... C'est un mélange de...
De catalan,
d'occitan.
D'occitan, bien sûr.
Voilà. C'est une langue qui est parlée par les gitans, par tous les gitans.
Par les gitans catalans.
Par les gitans catalans.
Le Sinti parle son Sinti, le Manouche parle le Manouche, le Yéniche parle le Yéniche. Mais la langue mère, toutes les langues, c'est du sanskrit, c'est le romanis, c'est le romanès. Même le calo de chez nous, c'est le romanès. C'est la langue mère. C'était du sanskrit. C'est une langue noble.
La langue mère. Bon, ben écoutez, vous m'apprenez beaucoup de choses.
On
en apprend tous les jours. Manita de Plata. Hein. C'est le grand frère, c'est le pape, c'est qui, là, pour vous, Manita de Plata?
C'est le grand-oncle de tous les gitans.
Le grand-oncle, vous l'appelez?
Ah oui, c'est l'oncle Manita. Et c'est l'oncle de beaucoup de personnes, hein. Malgré qu'il ne soit pas l'oncle direct, ça reste l'oncle.
C'est une référence pour vous?
Ah, c'est la référence. C'est la référence, surtout au niveau culturel. Manita de Plata, c'est quand même le monsieur qui a vendu 60 millions de disques. 70. Manita de Plata, ça a été le premier artiste à jouer pour la reine d'Angleterre. Manita de Plata, c'était quand même l'ami de M. Dali, de Picasso, de Charlie Chaplin.
C'est votre fierté, Manita de Plata.
Mais bien sûr, mais Manita de Plata, c'est grâce à lui, c'est à l'Égyptiskine. C'est grâce à lui, c'est à tous les gosses gypsies. Si la culture gitane a explosé, c'est grâce à M. Manita de Plata. C'est lui qui a fait le tour du monde. Il a promu la musique gitane partout.
Donc, c'est un passage obligé, quoi.
C'est le passage obligé.
C'est le passage obligé.
C'est le passage obligé. Manita de Plata, c'est le grand monsieur de la communauté gitane, Manita de Plata. Manita de Plata, même quand il était artiste, reconnu mondialement, il n'a jamais manqué un pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Il se permettait de refuser des contrats en Amérique parce qu'il y avait la procession au Sainte-Marie de la Mer.
Alors justement, Sainte-Marie de la Mer, parlons-en justement. C'est quoi ce pèlerinage? Ça vient de quoi? Et vous le faites encore? Vous en êtes l'organisateur aujourd'hui?
On le fait encore, bien sûr qu'on le fait encore. Sainte-Marie de la Mer, ça remonte au temps du marquis Falco de Baroncelli, qui a créé la nation gardienne. Et il était très ami avec Coucou. Coucou, c'était un grand oncle à nous. Et c'était l'ami intime du marquis Falco de Baroncelli. Et c'est le marquis qui avait instauré, que ce serait la famille Baptiste, les porteurs officiels de la barque de Sarah. Pendant le pèlerinage, c'est lui qui a fait reconnaître Sarah, c'est lui qui a fait organiser la première procession. Et depuis que la procession existe, c'est la famille Baptiste, les porteurs officiels de la barque.
Alors Sarah, c'est qui?
Sarah, c'est la patronne des Gitans, la Sainte Noire.
C'est une Sainte Noire.
La Sainte Noire, voilà.
C'est la patronne. Vous marquez votre différence, ou c'est... pas?
Non, pas du tout. Sarah était venue d'Égypte avec Salomé et Jacobé, et apparemment, ils étaient sur une barque, ils se seraient perdus dans la mer, et c'est Sarah qui savait lire la Bonaventure, qui lisait dans les étoiles, qui les aurait conduits jusqu'au Sainte-Marie de la Mer.
D'où l'importance de Sainte-Marie de la Mer.
Tout à fait, tout à fait. Et depuis qu'il y a ce pèlerinage, c'est des gitans du monde entier, je dis du monde entier, qui sont ensemble, parce que dernièrement, j'avais rencontré des... Ils se faisaient appeler les gitans de la mer. Ils arrivaient du fin fond de la Thaïlande. Les gitans de la mer, on ne savait même pas qu'ils existaient. Ils se considèrent comme gitans.
Alors, ces gitans de la mer... Quand ils sont au Sainte-Marie, ils sont combien? Et c'est un pèlerinage de combien de personnes?
Ça dépend. Ça dépend des moyens. Parce que les gens, ils croient qu'on va au Sainte-Marie de la Mer. Bon, maintenant, c'est facile. On prend la voiture, en demi-heure, on y est. Il n'y a pas de souci. Moi, au Modalès, il me faut une heure. C'est bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il y avait des chevaux. C'est-à-dire que les gens, ils prenaient des semaines entières pour aller au Sainte-Marie de la Mer. Ils dormaient dehors. Ils se privaient toute l'année. Pendant 11 mois, ils se privaient pour aller au Sainte-Marie de la Mer. Mais pourquoi c'était important d'aller là-bas? Parce qu'on retrouvait la famille qu'on n'avait pas vue depuis des années. C'est là où c'est qu'ils faisaient... Toutes les demandes de mariage se faisaient là-bas. Les baptêmes se faisaient là-bas. On voyait les cousins, les tantes qu'on n'avait pas vues depuis l'année. Vous voyez, c'était... Pendant un moment, les Sainte-Marie de la Mer, c'était la capitale des Gitans.
Et ça ne l'est plus ou ça l'est encore?
Ça l'est beaucoup moins. Parce que justement, par rapport à la facilité d'aller, de revenir, on peut se permettre d'y aller... un coup de voiture, de revenir, alors que c'est pas ça. Avant, les gens, quand ils venaient, ils restaient une semaine, c'était groupé. Moi, je pense que c'était beaucoup mieux à l'époque.
Vous avez une petite nostalgie, là.
Ah, tout à fait, oui. Moi, je suis très nostalgique du temps perdu. Je suis nostalgique de tous ces feux de camp qu'on avait avant autour, qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas de téléphone portable, qui vivaient là, qui nous pourrissent la vie. Même chez moi, pareil, attention, hein, on est à table et les enfants, ils jouent sur leur téléphone. C'est horrible. Alors qu'à l'époque, on avait rien de tout ça. On se mettait autour du feu. Tu te souviens, Lucien, quand on était petit, on se mettait autour du feu et les vieux parlaient. Mais tu aurais passé des heures à les écouter. Et puis quand tu parlais, tu taisais. Tandis que maintenant, tu parles, mais une personne, j'ai parlé, un gamin de 10 ans, 15 ans, il va te couper la parole. Le monde gitan a changé aussi. Et moi, je pense que c'est par rapport à la sédarisation au niveau du gadjo.
Vous pensez que le caractère gitan est plus noble s'il est nomade?
Non. Chacun a une façon différente de travailler. Nous, on n'a pas la même culture que le manouche, on n'a pas la même culture que le sinti, on n'a pas le même. C'est complètement différent. Nous, chez nous, si une femme, une jeune fille s'en va avec un garçon, c'est un déshonneur. Alors que chez le manouche, c'est complètement différent. Il faut que le garçon enlève sa promise. On est complètement différent, mais on reste les mêmes. On a la même problématique par rapport au gadjo. On a un seul point commun avec, avec les gadjous, c'est qu'il ne nous aime pas. Il n'aime pas les gens du voyage, il n'aime pas les gitans, il n'aime pas les sintis.
Mais est-ce que pareillement, on peut dire que vous n'aimez pas les gadjous?
C'est pas que j'aime pas les gadjous. C'est pas que j'aime pas les gadjous, c'est qu'ils sont complètement différents et ils sont butés. Un gadjou, il croit toujours avoir raison. Et moi, je préfère avoir la paix qu'avoir raison. Alors, je ne cherche pas. Si me dit que le ciel est vert, bon, mais le ciel est vert. C'est la solution.
Vous ne luttez pas.
Peut-être bien, mais bon. Du moment que lui, il pense avoir raison, et qu'on perd dans son teston, il est bien, tu es bien moi aussi. C'est compliqué.
Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, por en mi vida la fortuna de mi destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. ¡Bamboleo! Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Bambolero, bambolero, c'est la chanson suprême, ça.
Gypsy Kid, Gypsy Kid. Premier groupe français à être disco d'or en Amérique.
C'est là, le hit parade, là.
Là, on est français. Hein? Là, on est français, parce que c'est le premier groupe français à être disco d'or en Amérique.
Ah oui?
Ah oui, 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 Gypsy Kid.
Pourquoi pas?
Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et les Gypsy Kid, c'est quand même Nicolas Reyes. Nicolas Reyes, c'est quand même le fils de M. José Reyes, qui était le chanteur de Manita les Platas. Et comme quoi les chats font pas des chiens. Et pour moi, ce sont des artistes parce qu'ils sont sincères, ils sont humbles. Ils sont restés gitans. Et ils ont compris que même en étant artistes, en contrariant les plus grands, pour tous les grands, ils sont restés humbles. Ça fait partie.
Ça compte l'humilité, bon.
Ah, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, ça compte l'humilité.
Vous êtes dans la transmission avec les anciens, vous êtes dans l'humilité envers nous-mêmes, la nature et l'actualité.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité aujourd'hui?
Je pense que le monde est devenu fou. Je pense que le monde est devenu fou. À la place de s'aimer, on se détruit. Alors qu'il y a tant à faire par rapport à l'autre. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que le monde est devenu fou. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Parce que Dieu a dit « Aimez-vous les uns les autres ».
Ouais.
Alors bon, pourquoi on ne s'aime pas, je ne sais pas.
Alors, justement, vous voulez dire « Dieu a dit ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport à la religion de la part de vos communautés diverses et variées?
Oui, bien sûr.
Fait que ça peut à la fois attirer du monde ou en gêner?
Ça peut gêner quelques personnes, ça peut gêner. Mais on m'a toujours appris que le respect de soi-même commence par le respect des autres. Moi, je respecte tout le monde me respecte. Moi, je suis catholique, d'accord? Mon épouse est chrétienne, pentecôtiste. Mon gendre est pasteur.
Alors, comment on arrive à marier tout ça?
Le respect. La tolérance, tout simplement. Et puis, moi, je pense que ce soit n'importe lequel, quand on parle de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu, c'est tout. Respecte les opinions des autres. Moi, qu'est-ce que ça m'a fait que tu crois à Krishna, à Bouddha, ce que tu me demandes que tu es bien et que tu aimes ton prochain? Moi, ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi c'est moi qui aurais raison? Je sais pas. Mais respecte aussi ma position à moi. Tu vois, c'est tout simplement. Tout est relatif. C'est le respect. Moi, je pense que c'est le respect et l'amour de l'autre et la compréhension de l'autre qui gère tout.
Et justement, alors, dans ces croyances diverses ou pas diverses, justement, comment vous voyez les choses au niveau du respect, de la foi, et quelle est la majorité dans le monde gitan de cette foi? Est-ce que c'est une foi protestante, une foi chrétienne catholique? Est-ce que c'est autre que...
À l'époque, le gitan était catholique. Était que catholique, je peux dire. Voilà. Il était que catholique. Mais dans les années 60, il y a un courant qui est venu par le Paillon, justement, et Jimmy Le Cossec. Ce sont deux représentants de la communauté gitane, les gitans Jean du Voyage, qui ont apporté une nouvelle doctrine par rapport à la religion. C'est le pentecôtiste. Et il y a énormément de gens issus de la communauté gitane et du jeune voyage qui sont rapprochés de cette religion. Quoique, eux, ils disent que c'est même pas une religion. Voilà.
Alors, c'est quoi le pentecôtisme?
Le pentecôtiste, ils croient en Dieu, mais pas au Saint.
Pas au Saint.
Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'ils sont déjà affiliés aussi aux protestants. Ils sont plus proches des protestants que des catholiques. Voilà. Ils ont la même optique. Voilà, c'est Dieu, tout simplement. Ils te disent pourquoi s'adresser au Saint quand on peut parler au bon Dieu.
D'accord. Donc c'est une tradition plutôt protestante.
Maintenant.
Oui.
Maintenant. Parce qu'à la base, le gitan était catholique. Mais bon, quand on parle avec certains d'entre eux, ils disent que l'Église, c'est froid. Je sais pas, il n'y a pas le même entrain que quand vous allez dans une église évangélique. Si vous allez même dans une église évangélique de Gadjo, ça n'a strictement rien à voir avec une église évangélique des gitans. Le gitan est toujours désordonné. Mais c'est... Alors, tu rentres dans une église de Gadjo, tout est carré, les gens sont assis, ils attendent, ils ne bougent pas, les enfants ils sont là. Tout est bien pour eux. Nous, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à rester comme ça. Tu rentres dans une église de gitans évangélique, ou à l'église, surtout évangélique, tu as les femmes qui sont assises d'un côté, les hommes qui sont assises de l'autre, les enfants qui courent partout. Le pasteur, il prêche, le stade, il fait chut, taisez-vous. Mais on est bien, on est là. Ça n'a strictement rien à voir avec les autres églises, rien à voir avec notre communauté. C'est comme ça, c'est à nous. C'est à nous. Le gitan, je crois qu'il a besoin de brouhaha, il a besoin de bruit. Il a besoin de bruit, je ne sais pas pourquoi. Même dans une église qu'on respecte, l'église pentecôtiste ou catholique, on respecte, bien sûr. Mais il a besoin de... C'est notre peuple, on est bruyant. Et c'est ça qui déplaît aux gens. On est bruyant. On fait du bruit, on bouge, on est là. Et les enfants, ils vivent. Et puis même les mamans, ils laissent vivre les enfants. C'est les enfants chinois, ils sont rois, tout le monde le sait. Mais pourquoi? Parce que c'est notre seule richesse. C'est pas... C'est, chez nous, moi, je peux dire que mes enfants, pour moi, c'est mon rayon de soleil. Tu vois, regarde un prince. Vachement mieux parce que... les parents, les grands-parents, nous ont élevés. Et on vit à travers eux parce que c'est eux qui m'ont forgé, ceux qui m'ont. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut se mettre un grand-père ou une grand-mère dans une EHPAD parce qu'il est trop vieux, parce qu'il sert plus. Alors qu'elle a tout donné. Elle a tout donné. C'est énorme. Alors pourquoi?
Quelle grâce que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce. C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu, tant qu'il est encore temps, à témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Si mon chemin est dur, je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi ta force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Il ne pourra m'arrêter, ni les problèmes.
On parlait de chant religieux, est-ce qu'on n'est pas dans un chant religieux là, carrément?
Complètement. C'est un cantique que chante Samuel, mon neveu, et il chante ce cantique de tout son cœur parce que c'est le gitan est croyant, le gitan est très croyant, il peut faire n'importe quoi le gitan et il se tournera toujours vers Dieu. Il se tournera toujours vers Dieu parce que c'est comme ça, ça s'explique pas. Tu étais dans ta voiture, tu étais dehors, tu avais des gens, tu étais n'importe où. C'est comme ça, Samuel, tu vois, il chante sa cantique et pourtant il fait le tour du monde, il joue avec Tonino Vallada dans Gypsy King. Il fait le tour du monde, voilà, il faut quand même qu'il chante des cantiques. La croyance, c'est énorme dans le peuple gitan.
La croyance, la transmission, le respect. On est quand même dans des valeurs intéressantes, hein, très intéressantes. Alors, Baptiste, on n'a pas fait le tour de votre personnalité, parce qu'il faudrait plusieurs émissions pour y arriver, mais on va quand même terminer cette émission avec un chant, puisque vous êtes aussi chanteur.
À l'occasion, oui.
Amateur.
Amateur, voilà, amateur.
Amateur,
voilà,
amateur. Mais amateur, ça veut dire aimer. Voilà, donc, amateur. On va faire avec notre ami guitariste, donc on va faire un chant d'adieu. Un chant d'adieu avec notre ami guitariste qui est venu ici pour accompagner Baptiste Payou. Bon, on voit que Baptiste prend la guitare. On le voit pas, mais on l'entend. On l'entend. Et donc, voilà, quand vous voulez, messieurs, je suis entièrement à votre écoute. C'est bien, il y a des bruits un peu partout. À vous, messieurs.
Luciano.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac.